Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur encore pour ce temps de louange, temps d'adoration. Ce matin, nous bénissons encore effectivement nos amis musiciens, musiciennes, nos chantres. Et je vous encourage bien sûr toujours à prier pour nos frères et nos sœurs. Ce n'est pas toujours évident. Avez-vous vos Bibles ? Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous ? Lisa, tu as ta Bible ? C'est pas grave. Merci Seigneur pour la technique. Nous avons bien la possibilité de projeter les versets. Mais je crois aussi qu'il est bon bien de pouvoir lire par nos yeux face à ce livre que le Seigneur nous a laissé. Vous savez aujourd'hui que c'est le livre le plus vendu au monde. C'est le best-seller, même avant Harry Potter. Alors ceux qui ne le savaient pas, vérifiez-le même, me semble-t-il, on le retrouve sur Internet. On va ouvrir justement ce saint livre et juste un verset en introduction, psaume chapitre 38 et le verset 10. Psaume chapitre 38 et le verset 10, je vous laisse le temps de chercher ce verset qui sera pour nous une introduction à ce que Dieu veut nous dire ce matin. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Qui parle, c'est David. Et David affirme que tous ses soupirs ne passent pas inaperçus devant Dieu. Bien au contraire, Dieu connaît tous nos soupirs. Et vous l'avez compris ce matin, j'aimerais parler de nos soupirs, les soupirs humains. Alors, qu'est-ce qu'un soupir ? Si on vous pose la question, qu'est-ce qu'un soupir ? Alors, j'ai travaillé pour vous, bien sûr. J'ai regardé dans un dictionnaire. Un soupir, c'est premièrement l'expiration forte et prolongée, plus ou moins bruyante, qui est occasionnée par un sentiment ou encore une émotion, une souffrance peut-être, une attente. On est par exemple exaspéré par une situation et pour exprimer un bien, peut-être notre agacement, on soupire, on souffle. C'est arrivé qu'à moi ça ou quoi ? Ah bon, vous me rassurez. Il faut aussi noter qu'un soupir peut aussi s'exprimer d'une façon verbale. Je peux exprimer par exemple ma lassitude, donc ma fatigue en disant « Je suis fatigué ». Ça n'arrive qu'à moi, ça ? Vous me rassurez. Un soupir, ça peut être aussi l'expression de l'aspiration de notre être. Et on a un exemple dans la Bible, justement, ce sont les fils de Corée. Et ils ont, entre autres, écrit le psaume chapitre 42. Et voilà ce qu'ils disent, psaume chapitre 42, verset 2. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Alors là, pour le coup, c'est clair, net et précis. Ce qu'on peut retenir peut-être aussi du soupir, c'est que le soupir, c'est typiquement humain, c'est propre à l'homme. Et il nous est tous certainement, à un moment donné, un jour ou l'autre, dans une situation particulière, nous avons tous été amenés à soupirer. Ne serait-ce que lorsqu'on a été, rappelez-vous, il ne faut pas qu'on oublie, lorsqu'on a été confiné et assigné à résidence. Gérard, je suis sûr que tu as fait comme moi. On a attendu, interdiction de sortir. Et puis il y a eu des moments où on dit vivement que ça se termine, ce Covid, et puis qu'enfin on puisse un petit peu galoper dehors. C'est un soupir. Et justement, ce matin, j'ai relevé pour chacun d'entre nous trois soupirs humains qu'ont exprimé en son temps trois hommes différents, en l'occurrence des croyants et croyantes. Et j'aimerais vous les exposer afin que, justement, au travers de ce que nous allons partager ce matin, nous soyons encouragé dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. Le premier soupir, je l'ai relevé auprès d'un certain Job, au hasard. Qui ne connaît pas Job ? Job était un homme intègre et droit, un homme qui craignait Dieu, un homme qui, la Bible nous dit, se détournait du mal. Mais voilà, il s'exprime à un moment donné et il dit dans Job chapitre 23, les versets 1 jusqu'au verset 9, il nous faut au moins lire ces 8 versets, 9 versets pour bien en comprendre un peu plus le contexte. Job prit la parole et dit « Maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Vous ne sentez pas le soupir là ? Verset 4. Je plaiderai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments, je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre ? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter ? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé ? Au Nord ? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi ? Je ne puis le découvrir, etc. Je vous encourage à pouvoir lire même tout le livre de Job, qui est véritablement un miroir de ce que nous sommes, de notre nature qui est limitée. Alors pour bien comprendre le contexte, et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien notre ami Job, il faut savoir qu'à un moment donné, cet homme a connu, on peut le dire, une terrible épreuve. Et quelle épreuve ? Presque le même jour, il a perdu quoi ? Eh bien tous ses biens, il a perdu même tous ses cheptels, il a perdu tous ses enfants. Et comme eh bien, ça ne suffisait pas, eh bien, pour rajouter à son malheur, la Bible nous dit qu'il a été atteint par une maladie incurable, un ulcère malin de la tête jusqu'aux pieds. Et cet homme eh bien, n'avait de cesse de pouvoir prendre ce morceau de poterie et se gratter, et donc de partout. Et le voilà dans les questionnements, le voilà relever la tête, parce que je vous l'ai dit en introduction, c'était un homme qui craignait Dieu. Et cet homme, vous l'avez compris, eh bien, cherchait Dieu eh bien, pour justement plaider sa cause devant lui. Et on constate que, en tout cas, lui a constaté que, en face, il a trouvé un Dieu qui n'était pas disponible, un Dieu absent. Il le dit d'ailleurs au verset, un peu plus bas, verset 9 qu'on a lu. Est-il occupé au Nord ? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi ? Je ne puis le découvrir. Il a cherché Dieu. Il veut. Il est là avec ses pourquoi. Mais pourquoi il m'arrive tout ça ? Et c'est alors qu'il exprime le soupir qu'on a lu au verset 3. Si ça peut être à nouveau exposé. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. C'est un véritable soupir. C'est une prière, certes, mais c'est aussi un soupir d'un homme qui est sincère avec Dieu et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est peut-être votre cas ce matin. Peut-être le cas d'une personne particulière qui est là ce matin. Tu es venu, tu ne sais même pas pour comment tu es venu. Certainement avec la force du Seigneur. Mais tu n'as pas eu envie de chanter. Et tu es là aussi dans un soupir, et toi aussi tu cherches Dieu. Tu pourrais dire tout comme Job, si je savais où le trouver, si je pouvais trouver eh bien, son trône de grâce, afin que je lui expose ma peine, ma souffrance. C'est peut-être ton cas. Oui, ce matin, tu cherches Dieu parce que tu veux être guéri. Tu cherches Dieu parce que eh bien, tu es dans la peine. Tu cherches Dieu parce que tu n'es pas bien. Et n'allez pas me dire, parce qu'on est chrétien, tout va bien, tout ça, attention, ne trompons pas les gens. L'évangile aussi, eh bien, et notre marche avec le Seigneur est quelquefois aussi parsemée de difficultés. Et on peut connaître des moments de doute, des passages à vide. Et on est là avec ses questionnements et surtout avec ses soupirs. Seigneur, où tu es dans mon malheur ? Où tu es dans ma détresse ? Et on a l'impression, eh bien, quand on est là devant Dieu et on cherche sa face, il n'y a aucun écho. Aucune réponse de la part de Dieu, un silence radio de sa part. Et c'est là que quelque peu on est troublé et qu'on pose des questions comme Job l'a eu fait en son temps. Est-il occupé au Nord ? Se cache-t-il ? Peut-être que ce que je vis, ça ne l'intéresse pas trop. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège que peut-être l'ennemi nous tend. Vous savez, quand on vit l'épreuve, c'est vrai, et je le dirai par la suite, Dieu est toujours là à nos côtés. Mais reconnaissons aussi que le diable aussi n'est pas trop loin aussi. Et il profite de ces moments de faiblesse pour essayer de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Alors c'est vrai qu'il y a des moments dans notre vie chrétienne où Dieu semble faire silence à toutes nos sollicitations. Pourtant, mes amis, mes frères et sœurs, pourtant, la réalité, c'est que les silences de Dieu ne veulent pas dire qu'il est absent. Ou même eh bien, qu'il est indifférent à nos requêtes. Bien au contraire, Dieu est à nos côtés au quotidien. Et peut-être qu'on a besoin de nous le rappeler dimanche après dimanche, ou jour après jour, Dieu est à nos côtés. Ce matin, quand vous êtes levé, il était à vos côtés. Et peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte, peut-être même que vous n'avez même pas prié. Mais le Seigneur, il attendait cette communication avec toi. et peut-être te rappeler qu'il est bel et bien à tes côtés. Tu crois qu'il ne sait pas la souffrance, même physique, que tu ressens dans ton corps? Ou as-tu appris que Dieu, à un moment donné, t'a abandonné dans toute ta marche? Et je crois que le Seigneur essuiera nos larmes quand on comparaîtra devant lui pour voir son immense amour, d'ailleurs, qu'il a déjà prouvé, parce qu'il a donné son Fils, il a donné celui qu'il avait de plus cher à la croix pour nous, pour qu'en retour nous puissions comprendre, eh bien, que rien ni personne ne pourra nous séparer de son amour. Et je peux vous dire que le Seigneur, même s'il fait silence, même si on ne l'entend pas, parce qu'il n'est pas toujours, eh bien, peut-être il est souverain, il n'est pas obligé de nous répondre. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas là. Il est là avec nous. Il est à nos côtés. Il est à mes côtés. Il est à tes côtés. Ilan, il est à tes côtés, le Seigneur. Et il me dit, eh oui. Et tu as raison de dire oui. Vous savez, une promesse que le Seigneur a laissée à son peuple, on la retrouve dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Me semble-t-il, il y a des versets que nous devons nous approprier. Le mieux, c'est d'apprendre par cœur toute la Bible. Mais à défaut, au moins retenir quelques promesses que Dieu nous laisse. Car cette promesse, elle a été laissée en son temps au peuple d'Israël. Mais par excellence, nous sommes le peuple, alléluia, de Dieu. Et la Bible dit, et c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Ésaïe, « Ne crains rien, car je suis avec toi, mon fils, ma fille. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. » Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Le problème, c'est que le Seigneur, il vient à notre secours en son temps. Et on le sait, le Seigneur, il fait toutes choses belles en son temps. On est pressé, on trépigne des pieds, on saute, Seigneur! Le Seigneur, il dit, c'est pas encore le moment. Attends, fais-moi confiance. En tous les cas, pour revenir à notre ami Job, Job, lui, est resté ferme et inébranlable dans sa foi, même quand sa propre femme lui a dit « Mais qu'est-ce que tu attends? Maudit Dieu et meurs! Dans ta situation, regarde, c'est clair, il n'y a pas photo, il t'a abandonné !» Et ne jetons pas la pierre à cette femme, parce que l'histoire ne nous raconte pas ce qu'elle est devenue, mais je suis sûr qu'elle aussi, à son tour, est rentrée en lui-même et a renouvelé un petit peu son langage. Mais même eh bien, face aux propos de sa femme, eh bien, cet homme est resté inébranlable. On a besoin de rester inébranlable. Dieu seul sait ce qui eh bien, va nous attendre les mois qui vont suivre, les années qui vont suivre. Et Dieu veut un peuple de vainqueurs. Et pour être vainqueur, il faut combattre. Et pas avec les mauvaises armes, comme on a entendu au travers du don spirituel, mais avec les armes spirituelles de Dieu, afin que nous soyons de véritables soldats. Un jour, eh bien, on n'aura plus besoin de ces armes. On sera devant le Seigneur et on entendra la voix du Seigneur qui nous dira « Entre, bon et fidèle serviteur ou servante, entre dans la joie de ton maître. Je ne veux pas manquer ce rendez-vous. » Je ne veux pas manquer ce rendez-vous. Voilà donc un premier soupir. On va eh bien, peut-être passer au deuxième soupir. Voulez-vous le connaître? Ce deuxième soupir, il concerne un homme. Et quel homme? C'était un grand roi. Je veux parler de David. Et David a dit, dans l'un de ses psaumes, c'est le psaume 55, et les versets 7 à 9, il nous est dit la chose suivante. Psaume chapitre 55, du verset 7 jusqu'au verset 9. David, qui à son tour exprime un soupir, il dit « Oh, si j'avais des ailes, les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. » Vous savez, parmi tous les 150 psaumes qui se trouvent dans la Bible, il me semble certainement que ce psaume 55 est l'un des plus émouvants, les plus touchants. Parce que là, on voit un homme qui est décrit comme l'homme selon le cœur de Dieu, un homme qui, eh bien, sans honte, sans crainte, partage son cœur, partage son expérience. Et dans ce psaume 50, justement, il raconte ce qu'a été eh bien, sa douloureuse épreuve. Pour ceux qui ne savent pas ou comprendre pleinement le contexte de ce chapitre 55, il nous est parlé qu'à ce moment-là, son propre fils Absalom s'était levé contre lui pour se rebeller contre son propre père et donc prendre sa place de roi. Quel affront, quelle honte même pour le grand roi David, son propre fils a levé une armée pour eh bien, essayer d'attenter à sa vie, le tuer, parce que c'était la réalité. Mais pour mettre le comble à bien sa souffrance, voilà aussi que David parle d'une déception aussi à l'égard d'un ami. Et cet ami, c'était bien son conseiller personnel, un certain Achitophel. Achitophel qui était un conseiller, le conseiller du roi David, et qui était un homme empreint de sagesse, un homme qui était très proche. Et semble-t-il, il avait une certaine amitié avec David. Et d'ailleurs, David ne va pas se cacher bien de parler de cette amitié qu'il avait avec Achitophel avant que ce dernier le trahisse. Regardez, juste dans ce psaume 55, les versets 13 à 15. Il parle là de cet homme Achitophel. Il dit, ce n'est pas un ami qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Mais c'est toi, il le tutoie, que j'estimais mon égal. Je me rends compte, je suppose avec vous, que certainement quand il était en train d'écrire ce cantique, parce que c'est un cantique, il était en train d'être ému, peut-être aux larmes, je ne sais. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule où ? À la maison de Dieu. Pourtant, Achitophel a trahi David. Et ce dernier, vous le comprenez, s'est senti profondément blessé. Il était en plus de ça saisi de crainte parce qu'il était question de vie ou de mort. D'ailleurs, très rapidement, on lui a dit, il faut que tu quittes Jérusalem parce qu'Absalom vient avec une grande armée, ton propre fils. L'angoisse était là, la peine. Et c'est justement, pour revenir à ce texte que nous avons lu, dans ce contexte-là, que David soupire et il désire avoir des ailes, les ailes de la colombe. Je vais vous le faire en français courant. Ce que désirait David, c'est quelque part disparaître de cette situation honteuse, terrible. Il aurait voulu peut-être même, disparaître, aller à droite, à gauche, en tout cas, se rendre invisible. C'était trop difficile, trop dur pour lui de pouvoir affronter cette épreuve. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, personnellement, ça m'est arrivé. Me trouver dans des situations où j'aurais voulu, tout comme David, avoir des ailes. Et puis m'envoler, je ne sais pas, disparaître. Même pour mon ennemi, j'aurais pas voulu cette situation que j'étais en train de traverser. Mais pourtant, il fallait que je la traverse. Et vous comprenez que ce soupir est sorti. C'était une aspiration profonde de l'âme de notre ami David. Oh, si je pouvais avoir des ailes. Mais voilà, la réalité, c'est qu'il n'a pas eu d'ailes. Et Dieu n'exauce pas ces genres de soupirs ou ces genres de prières. Et je dis quelque part, tant mieux. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, Joël ? Tant mieux. Parce que Dieu ne veut pas qu'on fuit l'épreuve, mais plutôt qu'on l'affronte. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Et puis aussi, on a besoin, pour nous chrétiens, de nous rappeler que nous n'avons, effectivement, pas besoin de fuir nos adversités ou nos épreuves. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit précédemment, Dieu est avec nous. Et parce qu'il est avec nous, il se propose aussi de combattre pour nous. Il se propose de nous rendre plus que vainqueurs dans toutes nos adversités ou nos difficultés. Il y a cette promesse que Dieu nous laisse encore par la bouche, cette fois-ci, du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Il dit à un frère, une sœur, quelqu'un ce matin, il te dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je ne parle pas des petites flaques d'eau, mes amis. Je parle de ces grandes eaux qui peuvent venir gronder devant nous et nous impressionner. Quand le peuple hébreu est sorti du pays d'Égypte, ils se sont trouvés devant la mer Rouge, c'était une véritable épreuve. Mais Dieu te dit, et Dieu leur a dit, si tu traverses ces eaux, je serai avec toi. Et Dieu a été avec eux puisqu'il a ouvert la marche pour eux. Et ils ont pu traverser à pied sec, mes amis, respect, donc cette mer Rouge. Si tu traverses ces eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Il y a des situations, c'est comme du feu, mes amis. C'est des étincelles de partout. C'est des explosions. Mais si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Allez demander à Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel, s'ils n'ont pas vécu ce passage. Ils l'ont expérimenté, ils l'ont touché du doigt, ils ont marché dans le feu. Et spirituellement parlant, nous sommes appelés à marcher dans le feu. le feu de l'épreuve. Pourquoi ? Parce que nous sommes remplis d'un feu, le feu spirituel, qui nous donne à relever la tête parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ notre vainqueur. Et peut-être au risque de choquer quelques-uns ce matin, quelquefois c'est même Dieu qui permet les épreuves dans nos vies. Tout ne vient pas de lui. Les adversités ne viennent pas de lui. Comme son nom le sous-entend, ça vient de l'adversaire, le diable. Mais même dans ces circonstances-là, Dieu permet que nous puissions traverser certaines adversités et certaines épreuves. Eh bien, tout cela pour que notre foi soit consolidée. Il y a des personnes, ils ne prieront pas tant qu'ils ne sont pas dans l'épreuve. Et ça, Dieu le sait. Et dans ces moments-là, il permet que tu galères pour que enfin, eh bien, tu puisses ouvrir la bouche. Et s'il le faut, soupirer de tout ton cœur et t'attendre à Dieu qui t'aime et qui ne veut pas, eh bien, que tu restes pour compte quand il reviendra. Parce que bientôt Jésus-Christ reviendra et il viendra et faire la différence entre ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Oui, si tu traverses les eaux, la Bible dit, Dieu s'engage, il dit, il sera avec toi. Et on a besoin de lui faire pleinement confiance. On a besoin, eh bien, tout comme David, eh bien, de pouvoir choisir de lui faire pleinement conscience. Et ce qu'on retrouve d'ailleurs toujours dans ce psaume 55, il a eu certes ce soupir, mais on constate un petit peu plus bas au chapitre, toujours au chapitre 55, mais au verset 17, qu'à défaut de ne pas avoir ses ailes, les ailes de la colombe pour s'envoler, s'échapper d'une manière ou d'une autre, David, lui, a choisi d'autres ailes. C'est les ailes de la foi. Dans le sens que, eh bien, il a décidé de faire pleinement confiance à Dieu. Et il dit, et moi, je crie à Dieu. Ce n'est pas tant les décibels. Là, il est en train d'exprimer qu'il est en train de prier Dieu, d'invoquer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et il rajoute, et l'Éternel me sauvera. Vous ne sentez pas la saveur de la foi ? Il dit, je vais crier à Dieu. Et parce que je crie à Dieu, eh bien, l'Éternel me sauvera. Il parle déjà dans le futur. Il parle de son espérance, mais aussi de sa totale confiance que Dieu interviendra d'une manière ou d'une autre. Verset 18, le soir, le matin et à midi, certes, je soupire et je gémis, et, conjonction de coordination, il entendra ma voix. Il me délivrera de la rapproche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Mais il rajoute, Dieu entendra et, conjonction de coordination, il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent point Dieu. Par ces paroles, David fait le choix de placer toute sa confiance en Dieu. Et il se recommande à Dieu. C'est vrai, je connais ces difficultés, ces problèmes. Personnellement, j'ai envie de fuir, j'ai envie de disparaître même. Mais toi, Seigneur, tu es capable de me donner la victoire. C'est pour ça que je me tourne vers toi. Je te fais pleinement, je choisis. Vous savez, faire confiance à Dieu, c'est juste un choix. Hein. C'est pas ressentir à un moment donné une sensation, un ange qui dit « ça y est, c'est bon, on a fait tout ce qui est nécessaire, tu peux croire ». C'est un choix. Je crois en Dieu. Seigneur, je te fais pleinement confiance. Et alors, dès lors que nous lui faisons confiance, le Seigneur, en retour, il se manifeste. Et ce que David a fait, il encourage ses contemporains à en faire autant. Au verset 23, toujours psaume 55, il dit, il encourage tous à pouvoir faire la chose suivante, remets ton sort à l'Éternel. Et, vous voyez, toujours, hein, il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il est ferme dans ce qu'il sait de Dieu. C'est impossible. Dieu qui nous aime, qui n'a pas épargné son Fils, dit la Bible, à combien plus forte raison va-t-il nous donner tout ce dont nous avons besoin avec lui ? Et il termine ce psaume 55 qui a commencé de manière douloureuse et il le termine en renouvelant sa confiance en Dieu. Regardez ce qu'il dit, psaume chapitre 55 et le verset 24. Et toi, oh Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Là, il parle bien sûr de ses ennemis. Les hommes de chant et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Et il renouvelle sa foi en disant, c'est en toi que je me confie. Est-ce qu'on est capable de dire ça ce matin ? Seigneur, c'est en toi que je me confie. Les épreuves, ils sont là, ils se multiplient. Les épreuves, eh bien, peut-être même me terrassent, me fatiguent, me donnent à pousser même des soupirs, eh bien, gémissements, peut-être même de découragement, excusez-moi. mais je choisis de faire pleinement confiance à mon Dieu. Amen et amen. On a parlé de deux hommes et je vous ai promis trois soupirs humains. On a parlé de Job, on a parlé de David, mais comme on aime l'équilibre, parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'équilibre, j'aimerais vous parler de deux femmes. Comme ça, on fait une pierre deux coups. Deux femmes qui étaient ni plus ni moins deux sœurs. Vous savez de qui je veux parler, c'est Marthe et Marie. Marthe et Marie, c'était également des proches amis du Seigneur Jésus. Et alors qu'ils venaient de perdre il y a quelques jours eh bien, leur frère, Lazare, voilà que Marthe vient au devant de Jésus et exprime la chose suivante, Jean chapitre 11, on en a bientôt terminé, Jean chapitre 11 et le verset 20. Lorsque Marthe... Ah, j'entends des bruits de feuilles, donc j'attends un petit peu. Jean chapitre 11, verset... Non, c'est intéressant de pouvoir plonger nos regards dans la parole de Dieu et puis de lire. Quelquefois, on nous encourage même à lire entre les lignes, que le Seigneur nous éclaire par son Esprit Saint. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui. Tandis que Marthe se tenait assise... Marie, c'est à pouvoir si vous suivez. Merci. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Vous voyez pas, vous sentez pas ce soupir ? « Ah Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais je vous assure qu'elle était plus que convaincue de ce qu'elle disait. Et je voudrais peut-être même à ce moment-là relever aussi une chose qui est une réalité. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, quand Marthe a exprimé ce soupir au Seigneur Jésus, elle était en train de le piquer ou même de lui faire un reproche de manière subtile. « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort, sous-entendu, tu n'as pas été assez vite. » Non, ce n'est pas ça. Marthe l'a exprimé sa profonde conviction. C'était la suivante, elle était convaincue que si Jésus était arrivé avant que son frère ne décède, la maladie n'aurait eu aucun pas, la mort n'aurait eu aucun pas sur la personne de Lazare. Et d'ailleurs, il me semble que les deux sœurs étaient en phase par rapport à cette affirmation qu'a exprimée Marthe, puisque plus tard, toujours dans la même journée, Marie a dit presque mot pour mot les mêmes paroles que sa sœur. On peut le lire, Jean chapitre 11 et le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle n'allait pas me dire qu'ils se sont croisés, Marthe et Marie, parce qu'à un moment donné, quand Marthe a quitté Jésus, Marthe est partie prévenir Marie que Jésus est arrivé. Alors Marie, elle, s'est levée puisqu'elle était assise dans la maison et donc elles se sont croisées. Et Marthe a dit « Oh, au fait, n'oublie pas de dire au Seigneur Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Elles ne se sont pas concertées. Mais on voit que ce sont deux sœurs qui avaient la même conviction. C'est que si Jésus était venu alors que leur frère était encore en vie, il ne serait pas mort actuellement. Et cette histoire, quelque part, elle semble nous révéler les limites de la foi que possédaient ces deux sœurs. Elles étaient sincères. Elles connaissaient le Seigneur Jésus. Elles avaient eu peut-être des moments intimes encore avec Jésus. Mais leur foi était limitée. Leur connaissance de Jésus était limitée. Elle ne savait pas que celui qu'elle connaissait, qu'elle côtoyait quelque part, était capable même d'intervenir quand la mort fait rage. Et il y a certaines situations où, devant nos yeux, pour nous, c'est mort. C'est un peu comme Lazare. Il n'y a plus d'espoir. Si le Seigneur était intervenu avant telle date, c'est bon. Mais si après cette date, il n'est pas intervenu, donc c'est mort. Non, Seigneur, n'essaye pas, on a essayé. N'essaye pas. Et c'est là qu'on oublie que le Seigneur n'est pas un homme. Mais Dieu est Dieu. Il est certes omniprésent, omniscient, mais mieux encore, il est omnipotent. C'est-à-dire qu'il est tout-puissant. Et ce Dieu, il est capable de tout. Mon frère, ma sœur, de la part de Dieu, ne limite pas ton Dieu. Demande lui-même un miracle. Là où la mort se fait déjà sentir. Vous savez, quand Jésus est arrivé devant ce tombeau, Marthe lui dit, mais attends, on l'a enterré il y a 4 jours, hein, c'est mort. Et c'est là que Jésus a rappelé, je suis la résurrection et la vie. Dieu peut ramener à la vie n'importe quelle situation. Fût-elle pourrie, fût-elle bien la plus exécrable, le Seigneur est capable d'intervenir. Mais le crois-tu, mon frère, ma sœur ? On a besoin bien de connaître davantage notre Dieu et lui dire, Seigneur, je veux bien considérer ta toute-puissance et croire que tu es capable d'intervenir même dans les situations les plus difficiles. Dieu peut guérir du cancer, qui le croit ça ? Dieu peut faire tout ce que nous pouvons lui demander, mais il y en a qui n'osent même pas le demander parce qu'ils ne croient pas, dans le fond, que Dieu est capable de le faire. D'ailleurs, je veux vous dire franchement, Marthe et Marie, quand ils ont vu le Seigneur Jésus, c'était juste pour l'accueillir, lui dire, tiens, voilà, le corps, il est là, mais je ne suis pas sûr qu'elle accueillait le Seigneur pour lui dire, est-ce que tu es capable, ou bien veux-tu ressusciter notre frère ? Mais il ne faut pas leur jeter la pierre parce que peut-être qu'on aurait fait pire que ces deux sœurs. Seigneur, augmente-nous la foi. Ça, c'est un soupir que nous devrions exprimer à Dieu. Une prière, certes, mais aussi un soupir. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, donne-nous à croire même l'impossible parce que tu peux tout. Le Seigneur peut convertir tous tes enfants, mon frère. Tous tes enfants, ma sœur. Dieu peut faire ce qui te passe, ce qui te dépasse. Ce qui peut-être t'attriste encore aujourd'hui, mais le crois-tu ? Alors que dire en conclusion, je termine, on vient de voir trois soupirs humains, et peut-être ce qu'il y a à retenir de ces trois soupirs, le premier c'est que Dieu, il est à nos côtés à tout instant, chaque jour de notre vie, il vit le quotidien avec nous. Même s'il y a des moments où on l'invoque, on le prie, et Dieu semble faire silence, croyons que le Seigneur il est avec nous parce que Jésus lui-même l'a promis et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ensuite, quand les épreuves se présentent, n'est-ce qu'ils ne vont pas ? Il y en a, ils font la politique de l'autruche. Hein. Oui, l'épreuve arrive, ni vu ni connu. Non, tout va bien. Ils veulent esquiver, ils veulent fuir. Même. Ne fuyons pas l'épreuve. C'est certainement Dieu qui l'a permise dans nos vies. Mais au contraire, considérons que le Dieu justement qui est à côté de nous est aussi tout-puissant pour nous secourir dans tous nos besoins. C'est pourquoi confions-nous en Dieu. Faisons-lui connaître nos besoins. Et lui en retour agira. Juste, je termine par ce verset, puis après nous prierons. Psaume chapitre 37 et le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je me rappelle, j'étais un petit peu plus jeune, on nous apprenait ces choses à l'école du dimanche. Et il faut croire qu'il y a des choses qui restent à bien de nos écoles du dimanche quand on écoute l'animateur, l'animatrice. Ce texte, il est merveilleux. Il te demande juste ta situation, ton sort. Recommande-le à l'Éternel. Mais à côté de ça, mets en lui ta confiance. Et en retour, il agira. Ça, c'est la part de Dieu. Et ça, il faut le laisser faire. Il agira en son temps parce qu'il fait toutes choses belles. En son temps, prions ensemble le Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ta parole qui est tel un miroir, reflète, Seigneur, ce que nous sommes. Et nous avons pris ces exemples de ces trois hommes qui ont soupiré en leur temps. Au travers des situations, des épreuves, des adversités qu'ils ont pu vivre, ils ont exprimé ces soupirs et nous l'avons lu en introduction. Seigneur, tous nos soupirs sont devant toi. Tu ne les méprises pas, tu n'es pas indifférent à ce que nous pouvons vivre. Mais bien au contraire, tu es là pour nous montrer ta gloire, tu es là pour venir nous assister, tu es là pour venir, Seigneur Père mon Dieu, nous étonner parce que rien n'est étonnant de ta part. Oh Seigneur, je te prie, toi qui connais tous les soupirs, tu connais ceux et celles qui peut-être même soupirent en silence. Leur soupir n'est pas verbal, il est bel et bien silencieux, tel un ultrason. Un soupir qui s'exprime par des larmes, mais Seigneur mon Dieu, la Bible nous dit aussi que tu connais la voix des larmes. Oui, Seigneur, tout ce que nous vivons ne t'est point caché. Mais ce matin, Seigneur, tu veux nous encourager à pouvoir nous recentrer sur toi, regarder vers toi et par la foi, Seigneur, te faire pleinement confiance. Car tu ne peux pas nous laisser, Seigneur Père, dans la confusion. Tu ne peux pas nous laisser, Seigneur Père, mon Dieu, dans la défaite. Au contraire, Seigneur Père éternel, tu combats à nos côtés et mieux encore, tu nous donnes la victoire. Alors je te prie, Seigneur, de venir au secours de quelqu'un, quelqu'une, qui se trouve là, ici, en ce lieu, et qui soupire devant toi. Amen, amen. Il y a peut-être de ces personnes. S'il vous plaît, gardez les têtes baissées. C'est tellement important. Et tu es peut-être dans ces soupirs. Tu t'es retrouvé même dans la maison de Dieu ce matin, tu ne sais pas comment, avec quelle force. C'est la force de l'Éternel. Et ton soupir, Dieu le connaît. Les autres ne le voient pas, les autres ne l'entendent pas. Mais Dieu, il te dit ce matin qu'il connaît ton soupir. Il connaît le cri de ton âme. Il connaît l'aspiration de ton âme. Il sait, Seigneur mon Dieu, il sait pleinement quelle est la souffrance qu'elle a et que tu portes. Et qui même quelquefois te donne à te lever en pleine nuit et à réfléchir, à trouver une solution. Et on l'a entendu au travers d'un don spirituel. Ce n'est pas à toi de chercher des solutions. Surtout pour ce qui te dépasse. Dieu se propose de t'accorder la solution. Et la solution, c'est Jésus. La solution, elle se trouve en l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et si tu es dans cette peine, si tu te sens concerné par rapport à ce que je te dis, lève-toi tout simplement à ta place et je prends le temps avec toi. Alléluia, à bien de prier ce matin. Toi, avec ton soupir, apporte-le devant le trône de la grâce. Job cherchait où se trouvait Dieu. Dieu, il est partout. Dieu, il est là ce matin parmi nous. Et Dieu, il veut intervenir dans ta situation et dans ta peine. Il veut sécher tes larmes ce matin. Alors si c'est ton cas, lève-toi. Une fois pour toutes, dépose ce soupir. Cette situation particulière qui te mine, dépose-la au pied du Seigneur. Et laisse-le agir. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Y aurait-il une autre personne qui est dans cette souffrance et qui soupire? Dieu veut répondre, mais il te demande de faire un acte de foi. Et il faut que tu te démarques, comme pour montrer à ceux qui te minent que tu décides maintenant par la foi de sortir de ces liens, de sortir de ces chaînes, de sortir de cette tristesse qui t'étreint. Et qu'au contraire, tu veux pleinement faire confiance à Dieu. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui sont là. Tu vois les supplications qui montent devant toi. Seigneur, interviens. Viens sécher les larmes. Viens faire grâce. Viens passer dans les rangs avec ta douceur. Viens, Seigneur, soigner les plaies. Viens encourager tes enfants. Viens encourager peut-être même une personne qui viendrait pour là où les premières fois et qui sait peut-être même lever ou peut-être même rester assis. Tu vois, tu connais les cœurs. Tu vois, Seigneur, quand le cœur est sincère. Seigneur, suscite la foi parce que tu es le Dieu de l'impossible et tu l'as montré avec la résurrection de Lazare, un homme qui était décomposé, qui était voué à la corruption et qui se relève comme neuf du sépulcre. Seigneur Jésus, toi seul es capable de faire ces choses. Et je te prie de ramener à la vie tout ce qui peut être mort. Seigneur, toute situation morte. Seigneur mon Dieu, je te prie maintenant de donner une nouvelle saison à mes frères, mes sœurs, à ceux et celles qui se sont levés ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu viens à leur secours et qu'ils aient l'occasion de glorifier ton Saint-Nom en ton temps. Oh Seigneur, je t'en supplie, interviens. Glorifie-toi. Il n'y a pas une seule chaîne, il n'y a pas une seule épreuve, une seule adversité. Seigneur Père, qui soit plus forte que toi, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Oh Dieu, manifeste-toi maintenant pour la gloire de ton nom. Et que Seigneur mon Dieu, même les œuvres de l'ennemi soient déjouées, soient détruites au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur mon Dieu, ceux qui ont besoin de délivrance puissent être délivrés, ceux qui ont besoin de guérison puissent être guéris, ceux qui ont besoin, alléluia, de joie, alléluia, puissent retrouver cette joie, oh Dieu. Manifeste-toi, glorifie-toi. Père, pour la seule gloire de ton nom, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, amen et amen.